Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 55, Daf Nun He. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu dans la Mishnah donc que le Korban Shlamim offert par le public qui accompagne l'offrande des deux pains à Shavuot, ainsi que les différentes sortes de Korban Hasham, doivent être sacrifiés dans la moitié nord de la cour du sanctuaire. En ce qui concerne les Korbanot Hasham, la Gemara nous a montré plus haut, Daf Mem Tet, d'où nous l'apprenons. La Gemara demande ici, Menalan de Baet Safon, d'où sait-on que le Korban Shlamim public offert à Shavuot a besoin d'être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire? La Gemara répond, de Tane Rabba bar Rav Hanan, Kameh de Rabba. Rabba, fils de Rav Hanan, a récité une braïta devant Rabba qui dit la chose suivante. Le pasouk dit dans Vaikra Kaf Gimel concernant les différents sacrifices offerts à Shavuot, Vaasitem Seir Izim Echad Lechatat, et vous ferez, donc vous offrerez un bouc pour le Korban Chatat, puis le pasouk poursuit en disant Ushnek Vasim, et deux moutons vous offrirez en tant que Korban Shlamim. Alors ces deux sacrifices sont juxtaposés. Ma chatat betzafon, de même que le korban chatat est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, av shalmet zibur betzafon, ainsi aussi le korban shlamim offert par le public doit être sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Amarle, Rava lui a posé la question suivante, vechi chatat mehechan lamda, d'où avons-nous appris que le korban chatat est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire? Mais ola, nous l'avons appris des lois concernant l'offrande du korban ola, par le principe de la juxtaposition. Davar halamed be'ekesh, choser ou melamed be'ekesh. Est-ce que quelque chose que nous avons appris par le principe de la juxtaposition peut être enseigné ailleurs par le principe de la juxtaposition? Pourtant, nous avons vu plus haut, d'Afmem Tet Amud Bet, que, en ce qui concerne les lois des sacrifices, on ne peut pas le faire. Et là, la Gemara dit plutôt, midetane rav mari bere de rav kahana. Nous l'apprenons de la Braïta récitée par Rav Mari, fils de Rav Kahana. Le pasouk dit dans Bamidbar Yud, concernant le son des trompettes, donc la musique qui accompagne les sacrifices publics, « Al olotechem val zivre shalmechem » vous sonnerez des trompettes sur, ou plutôt à l'occasion de l'offrande de vos korban ola et de vos korban shlamim. Le korban ola public est juxtaposé au korban shlamim public. Par cette juxtaposition, nous apprenons « Ma ola koche kodashim » de même que le korban ola a le statut de sainteté suprême. « Af zivre shalmet zibur koche kodashim » ainsi le korban shlamim offert par le public a aussi le statut de sainteté suprême. Celui qui tire profit de ces sacrifices de leur vivant transgresse l'interdiction de Meïla et après que ces sacrifices ont été sacrifiés, si on les fait sortir de l'enceinte du sanctuaire ou de la cour du sanctuaire, ce sacrifice est invalidé. Deuxième chose que nous apprenons de cette juxtaposition, Ma Ola Betsafon, de même que le Korban Ola est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire, Av Zivre Shalmet Sibur Betsafon, ainsi aussi le Korban Shlamim offert par le public est sacrifié dans la partie nord de la cour du sanctuaire. La Gemara demande « Ela hekesha kama lemayata » mais alors la première juxtaposition que nous avons vue plus haut où le Korban Shlamim offert à Shavuot par le public est juxtaposé au Korban Chatat offert aussi par le public, pourquoi vient-elle? Qu'est-ce que nous apprenons de cette juxtaposition? La Gemara répond « Ki Chatat » le Korban Shlamim est aussi comparé au Korban Chatat. Pour cela « Ma Chatat ena nechelet ela lezikhre keuna » de même que le Korban Chatat n'est consommé que par les Kohanim mal. Af zivre shalmet zibur les zivre keuna. Ainsi aussi, le korban shlamim offert par le public ne peut être consommé que par des Kohanim mal. Amarle Abaye. Abaye lui a demandé à Rava Yachi si c'est ainsi. Gabé Aïl Nazir. En ce qui concerne le bélier offert par l'abstinent après avoir observé une période d'abstinence d'au moins 30 jours. Dirtiv. Où le pasouk dit dans Bamidbar Vav, Vehikri bet korbano l'Hashem, et il offrira son sacrifice pour Hashem, Keves ben shnato tamim echad leola, un mouton parfait dans sa première année pour korban ola, bekavsa achat batchenanta temima lechatat, et une brebis parfaite dans sa première année en tant que korban chatat, ve'ayil echad tamim lishlamim, et un bélier parfait pour korban shlamim. Donc ici aussi, le korban shlamim est juxtaposé au korban chatat. Hachinami nema dehikisha katuv lechatat. Ainsi aussi dirons-nous que le pasouk a comparé ce korban shlamim, donc ce bélier, au korban chatat, et nous dirons ma chatat enan echelet ela lezichre kuna. De même que le korban chatat n'est consommé que par les kohanim mal af el nazir eno nechal ela lezichre kuna. Ainsi aussi le bélier offert par l'abstinent en tant que korban shlamim ne pourra être consommé que par des kohanim mal. Rabbali répond, Hachiashta, voyons voir, Hatam, là-bas, en ce qui concerne le bélier offert en tant que korban shlamim par l'abstinent, qui va dirtiv, puisque le pasouk dit, toujours dans le même chapitre, Velakar hakohen et azeroa beshela mina ail, et le kohen prendra l'avant-bras droit cuit du bélier, et donc c'est cela qu'il consommera, miklal, découlé, be'alimachlele. Nous pouvons déduire de là que tout le reste du bélier est consommé par le propriétaire. Ah ben, elle lui demande, mais quand même, Zeroa Beshela Miha, Lolitachil, Ela Lezichre Kuna. L'avant-bras droit, qui est cuit, qui est donc prélevé pour le Kohen, on devrait dire que lui ne serait consommé que par des Kohanim mâles. L'Agma répond au Kashia, c'est une question à laquelle l'Agmara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Vibaitema, et si tu veux, l'Agmara quand même propose une réponse. En ce qui concerne ce bélier offert par l'abstinent, Kotche Ikre, le pasouk le nomme sacré. En effet, le pasouk dit Kodeshu la Kohen. Donc le pasouk lui confère uniquement le titre de sainteté simple, Kochim Kalim. Kotche Kodashim lo Ikru, le pasouk ne lui confère pas le titre de sainteté suprême. C'est pour ça donc, nous ne pouvons pas appliquer la juxtaposition pour dire que ce Korban Shlamim a le statut de sainteté suprême pour ne pouvoir être consommé que par des Kohanim mâles. Tandis que pour le Korban Shlamim public offert à Shavuot, le pasouk dit Kodesh Yihyu Lachem la Kohen. Ils seront saints pour Hachem, pour le Kohen. Le pasouk ajoute ici qu'ils seront saints pour Hachem, ce qui peut suggérer une sainteté supplémentaire, et c'est pour cela que nous pouvons appliquer la juxtaposition pour dire que ce Korban Shlamim public a le statut de sainteté suprême, et donc nous apprendrons par la juxtaposition et la comparaison au Korban Chatat qu'il ne sera consommé que par des Kohanim mâles. Alors la Gemara demande, Ve'ela le ma'il cheta itkash, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que ce Korban Shlamim offert par l'abstinent a été juxtaposé et comparé au Korban Chatat? La Gemara répond, Amar Rava, She'im gilach al echad mishloshtam yatsa. Cette juxtaposition, donc cette comparaison, nous enseigne que si l'abstinent s'est rasé en ayant offert n'importe quel des trois sacrifices, donc le korban chatat, le korban ola ou le korban shlamim, il s'est rendu quitte de la mitzvah. Il est vrai qu'il doit offrir les autres sacrifices, mais il aura déjà le droit de boire du vin. Donc finalement, c'est le korban chatat qui est comparé au korban shlamim, alors qu'à l'origine, on aurait compris du pasouk que cet abstinent doit impérativement offrir le korban shlamim pour pouvoir se raser et boire du vin. Car le pasouk dit, et l'abstinent se rasera devant la porte du sanctuaire, il est évident qu'il ne pourra pas se raser devant la porte du sanctuaire car c'est un manque de respect. Donc en fait, le pasouk veut nous enseigner que le nazir, donc l'abstinent, doit se raser lorsqu'il offre le sacrifice qui doit être offert devant la porte du sanctuaire, ou plutôt lorsque la porte du sanctuaire est ouverte. Plus loin nous apprendrons qu'il s'agit du korban shlamim. Donc, a priori, il doit se raser lorsqu'il offre le korban shlamim, mais s'il l'a fait lorsqu'il a offert un des autres sacrifices, il s'est rendu quitte de la mitzvah, il pourra boire du vin. Nouvelle Mishnah, Hatoda, c'est un sacrifice de remerciement. Lorsqu'une personne revient d'un voyage dans le désert, ou d'une traversée de la mer, ou bien lorsqu'il a été en prison, ou lorsqu'il a été guéri d'une maladie. Ce sacrifice est d'ailleurs accompagné du pain spécial, comme il est expliqué dans Maseret Menachot. Ve'el Nazir, et le bélier offert par le nazir, c'est un des sacrifices que l'abstinent offre lorsqu'il termine une période d'abstinence d'au moins 30 jours, durant laquelle il ne boit pas de vin, il ne se rend pas impur pour les morts et ne se coupe pas les cheveux. Ce sacrifice est aussi accompagné de pains spéciaux. Donc ces deux sacrifices, Kodashim Kalim, ont le statut d'une sainteté légère, Shritatan Bekol Makom Ba'Azara, ils peuvent être sacrifiés dans n'importe quel endroit de la cour du sanctuaire, donc pas nécessairement dans la partie nord de la cour du sanctuaire, Vedaman Ta'un Shte Matanot Shenarba, et leur sang nécessite deux aspersions qui font quatre, aux deux coins opposés de l'autel, Venechalin Bekol Ha'ir, et ils peuvent être consommés dans toute la ville, donc pas nécessairement dans le sanctuaire, le Chol Adam, n'importe quel homme peut consommer ce sacrifice, Bechol Ma'achal, et de n'importe quelle manière, le Yom Velayla, pour un jour et une nuit, donc le jour où il a été sacrifié, et la nuit qui suit, Ad Chatzot, et ce, jusqu'à minuit. Hamuram Mehem, les prélèvements de ces sacrifices, il s'agit de la cuisse droite et de la poitrine, pour le bélier offert par l'abstinent, il s'agit aussi de la patte avant droite. Il s'agit aussi des prélèvements des pains qui doivent être offerts au Kohen. Kayot Sebahen ont le même statut, donc de sainteté légère, et peuvent être consommés n'importe où dans la ville et de n'importe quelle manière. Ela Shamuram Nechal Lakohanim. Cependant, les prélèvements de ces sacrifices ne peuvent être consommés que par des Kohanim, Lin Shehem, Velivnehem ou Leavdehem. Mais aussi, ils peuvent être consommés par leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. Nous avons vu donc dans la Mishnah que ce qui a été prélevé du Korban Toda et du bélier offert par l'abstinent peut être consommé par des Kohanim n'importe où dans la ville, donc pas nécessairement dans la cour du sanctuaire. La Gemara va nous montrer d'où nous le savons. La Gemara dit, Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Le Passouk dit dans Vayikra Yud, concernant les prélèvements des sacrifices, et chazé atonufa ve et shok hatoruma tochlu bemakom tahor. La poitrine qui a été balancée et la cuisse droite qui a été prélevée, vous mangerez dans un endroit pur. En là-dessus, Amar Rabbi Nechemia, vechi rishonim betuma achlum, est-ce que les premiers sacrifices mentionnés dans ce même paragraphe, par exemple les boucs et l'offrande à base de farine ont été consommées dans un endroit impur. Et là, plutôt, c'est cela que le pasouk veut dire. Tahor, vous les consommerez dans un endroit pur, michlal shehutame, du fait que le pasouk ne dit pas qu'il faut le consommer dans un endroit sacré, dans un endroit saint, mais plutôt dans un endroit pur. Cela veut dire qu'en fait, il est vrai qu'il a une certaine pureté, mais il peut aussi y avoir une certaine impureté. Il précise, Tahor mitumat metzora, c'est un endroit qui est pur, il ne peut pas y avoir d'impureté de lépreux, c'est-à-dire le lépreux est chassé de cet endroit, vetame mitumat zav, cependant il peut y avoir dans cet endroit l'impureté causée par le zav, causée par un écoulement non séminal. Donc celui-ci n'est pas chassé de cet endroit, ve'ezeze, et donc de quel endroit s'agit-il, ze machane Israël, il s'agit du campement appelé le camp des Israël, où seul le lépreux est chassé, mais celui qui est impur par l'impureté du zav peut y rester. Alors la Gemara demande, Ve'ema tahor mitumat zav, peut-être qu'il s'agit d'un endroit qui est pur concernant l'impureté du zav, c'est-à-dire celui atteint de l'impureté du zav doit être chassé de cet endroit. Ve'tame mitumat met, cependant il peut avoir l'impureté causée par le cadavre humain. C'est-à-dire que celui qui est impur par contact par le cadavre humain peut rester dans cet endroit, ve'ezeze, et de quel endroit s'agit-il? Ze machane levia, il s'agit du campement des Leviim, où le zav ne peut pas pénétrer, mais celui qui est impur par le contact d'un cadavre humain peut y rester. Donc finalement, qui nous dit que ces prélèvements peuvent être consommés dans toute la ville de Yerushalayim, peut-être qu'ils ne peuvent être consommés uniquement dans le mont du temple. Ragma répond, Amar Abaye, Amar Kra, le pasouk dit, concernant l'offrande à base de farine, toujours dans le même chapitre, dans Vaikrayud, Ve'achaltem otah bemakom kadosh, vous la consommerez dans un endroit sacré. Nous déduisons de ce pasouk, otah bemakom kadosh, elle, donc, seul L'offrande à base de farine doit être consommée dans un endroit sacré, velo acheret bemakom kadosh, mais une autre, c'est-à-dire un autre sacrifice, n'a pas besoin d'être consommé dans un endroit sacré. Donc ces prélèvements n'ont pas besoin d'être nécessairement consommés dans l'endroit sacré, donc dans l'enceinte du sanctuaire. Afka le machane levia, ce pasouk, fait sortir ces prélèvements et permet donc de les consommer dans le camp des Leviim, où seul le Zav est chassé. Hadar Ktiv, puis par la suite le pasouk dit de Makom Tahor que ces prélèvements de sacrifice seront consommés dans un endroit pur, qui, comme nous l'avons dit précédemment, suggère qu'il y a une certaine impureté qui peut exister dans cet endroit. Afka le Machane Israël, le pasouk l'a fait sortir et donc a permis de consommer ces prélèvements dans le camp d'Israël, donc dans toute la ville de Yerushalayim. Rabba Amar, lorsque le pasouk dit dans Vaikrayud Ota Bemakom Kadosh, vous la consommerez donc ce prélèvement à base de farine dans un endroit sacré, Velo Acheret Bemakom Kadosh, et nous avons déduit, et non pas une autre, donc un autre prélèvement dans un endroit sacré, Afka Legamre, le pasouk l'a fait sortir entièrement et a permis de consommer les autres prélèvements ou les autres sacrifices, même à l'extérieur de Yerushalayim. Hadar Katab Rachamana, puis par la suite la Torah écrit Tochlu Bemakom Tahor, vous consommerez ces prélèvements dans un endroit pur, Aïla le Machane Israël, il a fait rentrer, donc il a exigé que ces prélèvements soient consommés dans le camp d'Israël à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. La Gemara demande de Emma, peut-être qu'on a qu'à dire Aïla le Machane Levia, lorsque le Pasouk a exigé que ces prélèvements soient consommés dans un endroit pur, il les a fait rentrer et a exigé qu'ils soient consommés même dans le Machane des Leviim, donc dans le mont du Temple. La Gemara répond, le Chadam Me'aylinan, lorsque nous apprenons du Pasouk qu'il faut faire rentrer ces sacrifices dans un camp, nous le faisons rentrer dans un seul camp, le Tarté Lomaylinan, mais on ne le fait pas rentrer dans deux camps. C'est-à-dire, la ville de Yerushalayim est constituée de trois enceintes, l'une à l'intérieur de l'autre, et l'une est plus sacrée de l'autre. La première, c'est le sanctuaire, qui est l'endroit le plus sacré. La deuxième, c'est le mont du Temple, qui correspond au campement de Leviim dans le désert. La troisième, c'est le reste de la ville de Yerushalayim. Donc, si à l'origine, on aurait pu penser que ces sacrifices pouvaient être mangés à l'extérieur de la ville de Yerushalayim, et nous apprenons du Pasouk qu'il faut les faire rentrer, nous n'avancerons que d'une seule étape pour dire donc que ces sacrifices devront être mangés dans la première enceinte qui est la ville de Yerushalayim. On n'ira pas jusqu'à dire qu'ils doivent être consommés dans le mont du Temple qui est la seconde enceinte. La Gemara demande, si c'est ainsi, Afukenami, même en ce qui concerne de faire sortir, donc de permettre de consommer ces sacrifices à l'extérieur, le Chadam Afkinan, on devrait faire sortir ces sacrifices que d'une seule enceinte, Mitartel ou Mafkinan, mais ne pas les faire sortir de deux enceintes. C'est-à-dire aussi, lorsqu'à l'origine on pensait que ces sacrifices doivent être consommés à l'intérieur du sanctuaire, et nous avons appris la Pasouk qu'il n'est pas nécessaire de le faire, on n'avancerait donc que d'une seule étape pour permettre de consommer ces sacrifices uniquement dans le camp de Leviim ou dans le mont du Temple, et non pas plus à l'extérieur, ou comme Rava l'a dit, même à l'extérieur de la ville de Yerushalayim. Ve'od, et en plus, le Pasouk dit dans Dvarim Yudbet, Lotuchal le'chol bisharech aktiv, le Pasouk dit qu'on ne pourra pas manger les sacrifices dans tes portails. Autrement dit, il est interdit de consommer les sacrifices dans les villes où tu habites. Il est donc interdit de consommer les sacrifices à l'extérieur de Yerushalayim. Donc, comment est-ce qu'on aurait pu penser qu'il serait permis de consommer ces prélèvements à l'extérieur de Yerushalayim? La Gemara répond, et là, plutôt, Mechavarta Kede Abaye, l'interprétation juste est celle qu'a proposée Abaye, que du premier pasouk nous avons appris qu'il est permis de consommer ces prélèvements à l'extérieur du sanctuaire, mais dans le mont du Temple, et du deuxième pasouk nous avons appris qu'il est permis de les consommer dans la ville de Yerushalayim. Nouvelle Mishnah, Shlamim, c'est un sacrifice de paix, appelé ainsi car une partie est offerte sur l'autel, une partie est donnée au Kohanim, et le reste est consommé par le propriétaire. Donc ce Korban Shlamim, Kodashim Kalim, ont le statut d'une sainteté légère, Shritatan Bechol Makom Bazara, ils peuvent être sacrifiés dans n'importe quelle partie de la cour du sanctuaire, Vedaman Taun Shtematanot Shenarba, et leur sang nécessite deux aspersions qui font quatre, Venechalin Becholayir, et peuvent être consommés dans toute la ville de Yerushalayim, le Chol Adam, et ce, par n'importe quel homme, Bechol Ma'achal, et ce, de n'importe quelle manière. Il n'y a pas de prescription concernant la manière de consommer ce sacrifice. Par exemple, il n'est pas nécessaire spécialement de griller cette viande. Les Shnei Amim Velayla Echad, et ce, pendant deux jours et une nuit, donc le jour où ce sacrifice a été sacrifié, la nuit qui suit et la journée qui suit ensuite. Hamuram Mehem Kayotsebaem, ce qui a été prélevé de ce sacrifice, il s'agit de la cuisse droite et de la poitrine, ont le même statut, donc il s'agit d'un sacrifice d'une sainteté légère, qui peut être consommé dans toute la ville de Yerushalayim. Et là, cependant, chez Amuram Nechal HaKohanim, ces prélèvements ne peuvent être consommés que par des Kohanim, l'Inchehem, Velibnehem ou l'Avdehem, mais aussi par leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. Nous avons vu dans la Mishnah que le Korban Shlamim, qui est un sacrifice d'une sainteté légère, pouvait être sacrifié n'importe où dans la cour du sanctuaire, et non pas nécessairement dans la partie nord de la cour du sanctuaire. La Gemara va montrer d'où on l'apprend. La Gemara dit, Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Le Passouk dit dans Vaikra Gimel concernant le Korban Shlamim, il y a trois paragraphes concernant le Korban Shlamim. Le premier concernant le bovin offert comme Korban Shlamim, le deuxième concernant le mouton, le troisième concernant la chèvre ou le bouc offert comme Korban Shlamim. Dans le premier paragraphe, le Passouk dit « Ushchato petach ohel moed » et il le sacrifiera devant la porte du sanctuaire. Dans le deuxième paragraphe, il est écrit « Veshachatoto lifnei ohel moed » et il le sacrifiera devant le sanctuaire. Et dans le troisième paragraphe, il est écrit « Veshachatoto lifnei ohel moed » et il le sacrifiera devant le sanctuaire. Alors la question se pose, pourquoi ces trois répétitions? La Braïta répond « Leharshir et kol aruchot bekodashim kalim » Le Passouk vient rendre aptes tous les côtés de la cour du sanctuaire pour la sacrification des sacrifices d'une sainteté légère. La Gemara expliquera plus loin comment est-ce qu'on l'apprend. Kalva Chomer le Tzafon, et par raisonnement a fortiori, nous pouvons déduire que les sacrifices d'une sainteté légère pourront être sacrifiés dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Le raisonnement est le suivant. Uma Kodeshe Kodashim Shelor Shuru Bechol Aruchot, si déjà les sacrifices d'une sainteté suprême qui ne sont pas aptes à être sacrifiés dans tous les côtés de la cour du sanctuaire, Hurcherub et Tzafon, ils sont aptes à être sacrifiés dans la partie nord de la cour du sanctuaire, Kodashim, Kalim, Sheurcherub, Cholaruchot, les sacrifices d'une sainteté légère qui sont aptes à être sacrifiés dans n'importe quel côté ou partie de la cour du sanctuaire, Enodin, Sheurcherub et Tzafon, n'est-il pas évident qu'ils sont aptes à être sacrifiés dans la partie nord de la cour du sanctuaire? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Lo ne'emar hakatuv ela le'archir tzafon. Le pasouk n'est venu que pour rendre apte la partie nord de la cour du sanctuaire pour la sacrification des sacrifices d'une sainteté légère. Shiachol ve'haludinhu. Car il aurait été possible de présenter un raisonnement a fortiori qui serait le suivant. Uma kodashim kalim she'urcheru bechol aruchot. Si déjà les sacrifices d'une sainteté légère qui sont aptes à être sacrifiés dans tous les parties de la cour du sanctuaire, pour ainsi dire donc, leur force est plus grande, le Urchar Mekoman Etzel Kodashe Kodashim, l'endroit qui est prévu pour eux n'est pas apte pour la sacrification des sacrifices d'une sainteté suprême. Kodashe Kodashim Shelo Urcheru et Labetzafon, les sacrifices d'une sainteté suprême qui ne sont aptes qu'à être sacrifiés dans la partie nord de la cour du sanctuaire, Enodim Shelourcham Koman et Tsel Kodshim Kalim, n'est-il pas évident que l'emplacement prévu pour leur sacrification ne sera pas apte pour la sacrification des sacrifices d'une sainteté légère? En fait, donc, on aurait conclu que chaque type de sacrifice a un endroit prévu pour sa sacrification. Donc, la partie nord de la cour du sanctuaire est prévue uniquement pour les sacrifices d'une sainteté suprême, tandis que les autres parties de la cour du sanctuaire ne sont prévues que pour la sacrification des sacrifices d'une sainteté légère. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, nous lisons selon la Shita Mukubetset, Ushrato Petacho El Moed, Veshachatoto Lifneo El Moed, Veshachatoto Lifneo El Moed, ce sont les trois psukim que nous avons vus précédemment. De ces psukim, nous apprenons que les sacrifices d'une sainteté légère pourront être sacrifiés même dans la partie nord de la cour du sanctuaire. La Gemara expliquera par la suite comment est-ce que nous l'apprenons.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Nun He Amud Bet. La Gemara demande Bemaï Kamiflegé, en quoi discutent Tanakama et Rabbi Eliezer? Comment interprètent-ils les psukim? La Gemara répond, Tanakama Savar, le premier auteur de la Braïta pense, Tlata Krae Ktive, il y a trois psukim, comme nous l'avons vu précédemment, Chad le Goufé. Un vient enseigner une loi pour lui-même, c'est-à-dire il vient enseigner ce qui est écrit dans le pasuk, Deniv et Petacho El Moed, qu'il faudra, comme la Gemara l'expliquera par la suite, que la porte du sanctuaire soit ouverte lorsqu'on sacrifie le Korban Shlamim. Vechad Leharshir Tzadim, le deuxième pasuk vient rendre aptes les côtés de la porte, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de sacrifier le Korban Shlamim en face de la porte du sanctuaire. On peut le faire aussi de côté, donc du côté nord ou du côté sud. Bechad lifsol tzidet tzadim, et le troisième pasouk vient déclarer inaptes les côtés des côtés, c'est-à-dire les endroits qui sont de côté et qui ne sont pas en face de la porte. C'est-à-dire la cour du sanctuaire entoure le temple, la partie qui se trouve à l'est, donc devant la porte, même de part et d'autre de la porte, s'appelle les côtés, et il est possible de sacrifier les korbanot shlamim, mais les parties qui sont derrière, donc qui sont cachées par le temple, s'il n'y avait pas la solution que la Gemara décrira plus loin, il aurait été interdit de sacrifier les korbanot shlamim. Aussi, s'il y a une salle qui a été construite avec la sainteté de la cour du sanctuaire, mais comme le précise le Chafetz Chaim dans l'Ikuta Halachot, elle ne se trouve pas en face de la porte, on ne pourra pas y sacrifier les korbanot shlamim. Vetzafon, loitztarichra, mais on n'a pas besoin de pasouk pour dire que la partie nord de la cour du sanctuaire, il est permis de sacrifier les sacrifices, car comme nous l'avons vu plus haut, le premier auteur de la Braïta l'a pris par un raisonnement a fortiori. Rabbi Eliezer Savar, tandis que Rabbi Eliezer pense, Chad le Goufé, le premier pasouk vient enseigner ce qui est écrit dans le pasouk même, Denive Petachou El Moed, c'est-à-dire comme l'Agmara l'expliquera par la suite, il faut que la porte du sanctuaire soit ouverte pour sacrifier les korbanot shlamim. Vechad leharshir tzafon. Et le deuxième pasouk vient rendre apte la partie nord de la cour du sanctuaire. Sans cela, on aurait appliqué un raisonnement a fortiori pour dire qu'on ne peut pas le faire. Car selon Rabbi Eliezer, la partie nord de la cour du sanctuaire n'a pas de sainteté particulière, mais plutôt il comprend les précisions du pasouk comme un choix d'emplacement spécial pour tel type de sacrifice. Et on aurait pu comprendre que pour les sacrifices d'une sainteté légère, le pasouk a fixé un autre endroit, et donc chaque type de sacrifice doit être sacrifié dans un endroit particulier. Les sacrifices d'une sainteté légère, on aurait pu penser qu'on ne pourrait pas les sacrifier dans la partie nord de la cour du sanctuaire. Donc c'est pour cela que vient le pasouk pour dire qu'on peut le faire. Vechad leharshir tzadim, et le troisième pasouk vient rendre apte les côtés de la porte du sanctuaire, donc les endroits qui ne sont pas vis-à-vis de la porte du sanctuaire, mais de part et d'autre, comme nous l'avons dit précédemment. Vetzidet Dadim Loistarichra, et en ce qui concerne les côtés des côtés, c'est-à-dire derrière le sanctuaire, ou bien dans une salle qui ne serait pas en face de la porte, nous n'avons pas besoin de pasouk pour dire qu'on ne peut pas y sacrifier les sacrifices de sainteté légère. Parce que finalement, du pasouk, nous n'apprenons qu'une chose, qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier le sacrifice vraiment en face de la porte du sanctuaire, mais on n'ira pas jusqu'à penser qu'on pourrait même le sacrifier à un endroit qui n'est pas du tout vis-à-vis de la porte, c'est-à-dire qu'il se trouve tout à fait de côté et il n'y a pas de possibilité de voir cette porte. La Gemara demande « Umaishna hacha dirtiv petach oel moed » Pourquoi ici dans le premier pasouk il est écrit « à la porte du sanctuaire » « Umaishna atam » et pourquoi là-bas dans les deux autres psukim dirtiv « lifne oel moed » devant le sanctuaire? Pourquoi cette différence? La Gemara répond, Kamash Malan, le pasouk vient nous enseigner que de Rav Yehuda Amar Shmuel. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shlamim Sheshartam Kodem Shiftechu Daltot Haechal, les korbanot Shlamim qu'on a sacrifiés avant d'avoir ouvert les portes du sanctuaire, Psulim, ils sont invalidés. Chez Nehemar, car le pasouk dit dans Vaikra Gimel, Ushrato Petach Oel Moed, et il le sacrifiera à la porte du sanctuaire. Nous apprenons de là, Bizman Sheu Patuach, il est possible de le sacrifier lorsque cette porte est ouverte, Velo Bizman Sheu Naoul, et non pas lorsque la porte est fermée. Itmar Nami, il a été dit aussi, Amar Mar Ukva Barchama, Amar Rabbi Yossi Berabi Chanina, Shlamim Sheshartan Kodem Sheiftechu Daltot Haechal, les korbanot shlamim qu'on a sacrifiés avant d'avoir ouvert les portes du sanctuaire, psulim, sont invalidés, Shenei Mar Kor le Pasuk dit, Ushchato Petach Oel Moed, et il le sacrifiera à la porte du sanctuaire. Ce terme Petach est en plus pour nous enseigner, Bizman She Petach Haechal Patuach, il est possible de sacrifier le korban shlamim lorsque la porte du sanctuaire est ouverte, velo bezman shehu naoul, et non pas lorsqu'elle est fermée. Bemarava matne hachi, en Eretz Israël, il rédige cet enseignement de la manière suivante. Amar Rav Yaakov Baracha, Amar Ravashi, Shlamim Sheshartan, Kodem Shiftechu Daltot Haechal, des korbanot shlamim qu'on a sacrifiés avant d'avoir ouvert les portes du sanctuaire, psulim, sont invalidés. Uba Mishkan, et dans le sanctuaire qui se trouvait dans le désert, Kodem Sheamidul Vihim et Amishkan, si on a sacrifié un korban shlamim avant que les Lévim ont érigé le sanctuaire qui se trouvait en déplacement, ou l'achar shifreku Lévim et Amishkan, et après que les Lévim ont démonté le sanctuaire pour partir en voyage, psulim, ces sacrifices sont pasoul, car finalement il n'y a pas de sanctuaire. En l'Agmara dit, pshita, une chose est évidente, mugaf, si la porte est fermée, même si elle n'est pas verrouillée, kenaul dami, elle est considérée comme étant verrouillée. Dans cette situation, on ne peut pas sacrifier un korban shlamim. Cependant, la question se pose, vilon, si on a étendu un rideau devant la porte qui est ouverte, mai, qu'en est-il? Est-ce qu'on la considère fermée et on ne peut pas sacrifier le korban shlamim? Ou bien on la considère ouverte et donc on peut sacrifier le korban shlamim? L'agma répond, Amar Rabbi Zera, hu atzmo en naase ela kepetach patuach. Le rideau étendu n'est lui-même considéré que comme une porte ouverte. Car en fait, la raison pour laquelle on a étendu le rideau, c'est juste pour protéger le sanctuaire des regards indiscrets. La Gemara pose une autre question, Govha, si on a placé quelque chose de haut devant la porte comme un monticule ou une planche, de manière à empêcher de voir l'ouverture de la porte, Mike, qu'en est-il? Est-ce que dans cette situation, nous considérons que la porte est fermée et on ne peut pas sacrifier le Korban Shlamim, ou bien est-ce qu'on la considère ouverte et on peut sacrifier un Korban Shlamim? Cependant, l'autel ne pose pas de problème, bien qu'il soit placé devant la porte du sanctuaire, car soit comme explique la Shita Mkoubetset, l'autel sert à l'offrande des sacrifices, il ne peut donc pas gêner la sacrification d'un sacrifice. Deuxièmement, comme l'expliquent d'autres commentaires, l'autel se trouve suffisamment éloigné de la porte du sanctuaire, de manière à pouvoir voir l'ouverture de la porte du sanctuaire par les côtés. Ici, la question se pose concernant quelque chose qui bouche carrément l'ouverture de la porte du sanctuaire. L'Agma répond, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta d'Etania, car il est enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi, Rabbi Daomer, Shne Pishpeshim Hayu Bebet HaKhalifot, il y avait deux petites portes dans l'endroit appelé Bet HaKhalifot, qui s'appelait ainsi, car c'était l'endroit où on rangeait les couteaux qui servaient à sacrifier les animaux. C'est-à-dire, comme il est expliqué longuement dans Masechet Midot, le sanctuaire lui-même, avec les combles attenantes, avait une largeur totale de 70 coudées. Devant le sanctuaire, il y avait un vestibule appelé Oulam, de 11 coudées de longueur et de 100 coudées de largeur. Donc finalement, le Oulam, ce vestibule, dépassait de 15 coudées de chaque côté du sanctuaire. Dans les murs de ce vestibule qui dépassait du sanctuaire, il y avait des espèces de fenêtres où on y rangeait les couteaux. C'est pourquoi la cour du sanctuaire à cet endroit, donc derrière le vestibule, s'appelait Bet HaKhalifot, l'endroit où on range les couteaux. À cet endroit, on ne peut pas voir la porte du sanctuaire. C'est pourquoi Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda dit qu'il y avait deux portes dans ce vestibule des deux côtés, donc à cet endroit qui dépassait du sanctuaire, Vegovhan Shmoné, et leur hauteur était de 8 coudées, l'Agmar expliquera, Kede leharchir et ta'azara kula leachilat kotche kodashim, pour rendre apte toute la cour du sanctuaire, même la partie qui se trouvait derrière ce vestibule, pour pouvoir y consommer des sacrifices d'une sainteté suprême, l'Agmar expliquera dans le daf suivant, ou le Shritat Kodashim Kalim, et aussi pour pouvoir y sacrifier des sacrifices d'une sainteté légère. Alors la Gemara demande, Maïlav, n'est-ce pas que ce que veut dire Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda en disant que ces deux portes avaient une hauteur de 8 coudées, alors qu'en fait, comme nous le verrons par la suite, toutes les portes étaient beaucoup plus hautes, des Ika Kamayu Shmone, qu'en fait, devant ces portes, il y avait une fermeture comme une planche ou un monticule d'une hauteur de 8 coudées pour masquer le vestibule. Et en fait, donc, nous voyons que quelque chose qui masque l'ouverture n'empêche pas la porte d'être considérée ouverte et on peut donc sacrifier le Korban Shlamim dans cette situation. L'Agma répond, l'eau, non, ce n'est pas ça que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda a voulu dire, des Gabhu Ninu Shmone, que l'auteur de ces portes était de 8 coudées. Mais Tivé, on lui a opposé une Mishnah dans Maseret Midot, Perekbet, Mishnah Gimel, Kol Hashearim Shayusham, toutes les portes qu'il y avait là-bas, dans la cour du sanctuaire, Govhan Esrimama, avait une hauteur de 20 coudées, Verorban Eserama, et avait une largeur de 10 coudées. Nous voyons donc que la hauteur des portes était de 20 coudées, et non pas de 8. L'Agma répond, Pishpeshim Shani, des petites portes appelées Pishpeshim, c'est différent. Il est possible que leur hauteur était moindre, il est possible donc que leur hauteur était de 8 coudées. On ne peut donc rien prouver de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Alors l'Agma demande, il est vrai que ces portes se trouvant à l'arrière du vestibule permettent de voir à l'intérieur de celui-ci et par conséquent on pourrait voir la porte du sanctuaire et on peut donc sacrifier à cet endroit le Korban Shlamim, mais Vehaikat Dadim, mais les côtés, c'est-à-dire les murs se trouvant de part et d'autre de ce vestibule, où il n'y a pas de porte, à cet endroit, on ne devrait pas pouvoir sacrifier le Korban Shlamim. L'Agma répond, « De me'ayel lehu bekeren zavit », c'est-à-dire, il a placé ses portes non pas à l'arrière du vestibule, mais dans les coins, c'est-à-dire du côté sud, ils ont placé cette porte au coin sud-ouest, et au côté nord, ils l'ont placé au coin nord-ouest, de manière à ce que ces portes donnent en fait sur les deux côtés, et partout, on peut voir la porte du sanctuaire, et donc toute l'arrière de la cour du sanctuaire est aussi valable pour sacrifier le Korban Shlamim. Alors l'Agma demande, « Achore bet kaporet mai » derrière l'endroit où se trouve le kaporet, donc à l'arrière du Kodesh Kodashim, où il n'y a pas de porte, qu'en est-il? Comment est-ce qu'on peut y sacrifier des Korbanot Shlamim? L'Agma répond, « Tashma, viens, écoute une preuve. « De'amar rami bar rav Yehuda amar rav. Lul katan haya achore bet kaporet » Il y avait une petite trappe derrière l'endroit où se trouvait le caporet, donc derrière le Kodesh HaKodashim. Selon la Shita Mukubetset, nous sautons les trois mots suivants. Kedel leharshir et ha'azara l'achilat Kodesh HaKodashim ou le shritat Kodeshim Kalim. Et ce, pour rendre apte la cour du sanctuaire, donc même l'arrière du Kodesh HaKodashim, pour pouvoir y consommer des sacrifices d'une sainteté suprême, et aussi pour pouvoir y sacrifier des sacrifices d'une sainteté légère, donc le Korban Shlamim. Behainu dirtiv, et ceci correspond à ce que le Pasuk dit dans Divrei Hayamim Aleph Perek Kavav. Le Pasuk parle des gardiens qui se trouvaient dans le Beit HaMikdash. Le Pasuk dit, Shnaim le parbar, il y en avait deux vers l'arrière. Alors l'Agmar demande, Maï le parbar, que veut dire ce terme le parbar? L'Agmar répond, Amar Rabba bar Rav Shila keman de Amar kelape bar, vers l'extérieur. Il s'agit donc des deux gardes qui se trouvaient vers l'arrière du Beit HaMikdash, derrière le Kodesh HaKodashim. Et la question se pose, pourquoi a-t-on besoin de gardes à cet endroit? Et la réponse est que puisqu'à cet endroit, il y a une trappe qui donne dans le Kodesh HaKodashim, il y avait besoin d'y placer des gardes. Nous avons fini le shiur de Maseret Zvachim Daf Nun He. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Nun Vav. Nous commençons Daf Nun He Amud Bet à la fin de la deuxième ligne du bas de la page. L'Agma a dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, En Chayavin Mishum Tuma, une personne ne se rend coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'impureté, donc d'avoir pénétré dans le sanctuaire tout en étant impur, et la Al, uniquement sur l'endroit qui correspond aux mesures suivantes.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.